La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Le langage, c'est le courage, la capacité de concevoir une pensée, de la dire et, ce faisant, de la rendre vraie. Voilà cette citation de Salman Rushdie que je voulais partager avec vous ce matin, en ces heures sombres où la violence continue à frapper les esprits les plus éclairés. Ce matin, nous allons poser des mots sur ce monde qui préfère parfois la violence au langage. Alors que ce temps de culte nous aide à avoir le courage de continuer à parler pour construire ensemble une vérité qui soit possible pour nous, possible à vivre pour chacun. Pour continuer toujours à marcher dans la voie du langage, celui qui cherche, celui qui ose, celui qui pense, celui qui se critique lui-même. Bienvenue à vous tous. Dans ce lieu, bienvenue dans ce temps de paix, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes en communion les uns avec les autres, que vous soyez très loin ou tout proche. Réunissons-nous dans le chant avec le premier chant du livret qui est inséré au début du psautier. Et ce matin, c'est Sacha qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de venir jouer pour nous et qui est à l'orgue ce matin. Merci Sacha. Seigneur, avec la prière de Judas Halévi, surnommé le chantre de Sion, poète, philosophe et médecin, qui est né dans l'émirat de Saragosse au XIIe siècle. Qu'à mes yeux tes voies sont belles et me sont chers tes chemins, sans obstacle ni embûche. Rien n'y est tortueux ni trompeur. Je n'ai pu m'avancer sur tes routes que tirées par tes liens. Mon espoir est en toi et mon aspiration. Tu es le rocher de mon cœur, la source de ma vie. Mon œil voudrait contempler ta majesté, mais un être comme moi n'en est pas digne. Quand j'aspirais à te voir, je me tenais au seuil de ta demeure. J'ai subi le poids des péchés de mon peuple, incliné mon épaule sous le fardeau de ses souffrances. Je n'ai pas tendu mes mains vers une divinité étrangère, car nul que toi n'est venu à mon secours. Si j'ai été esclave, c'est à cause de ma foi en toi. Et je n'ai servi personne d'autre que toi, mon bien-aimé, pour qui ma main se tend vers le haut et mes yeux s'élèvent vers les cieux. En toi sont ma force et ma forteresse. Même si tu m'anéantissais, j'espérerais encore en toi. J'ai subi ta colère, mais en toi j'ai mis mon espoir. Mon âme s'est efforcée de te servir. Elle s'est accrochée aux ailes de ton amour. Toutes tes colères ont passé sur moi, mais mon âme n'a pas oublié ta volonté. Je me suis fortifiée grâce à ton alliance. Oh, combien j'ai aimé la Torah. Je vous invite ensemble à chanter dans le psautier le psaume 65b, les strophes 1, 2 et 3, 65b. Alors, excusez-moi, je pense qu'il y a un souci, Sacha. Le psaume, dans le psautier 65b, est normalement la mélodie du psaume 72, que nous connaissons très bien, et là c'est un autre psaume, c'est une autre mélodie. Est-ce qu'on peut s'accorder? Ou alors c'est moi qui l'ai. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir et aucun problème, Sacha, c'est le baptême du culte pour toi. Le prophète Amos nous invite à l'équité, à la justice, à faire attention à nos frères. Et il nous invite surtout à chercher Dieu. Ainsi parle l'Éternel, dit-il à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Que cette parole nous guide et nous invite à être sans cesse des chercheurs de la vérité de Dieu pour nous.
Ah.
nous présentons devant Dieu avec cette prière attribuée à un soldat de la guerre de sécession. On aurait retrouvé cette prière dans sa poche. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les hommes. Amen. Par l'entremise du prophète Ésaïe, nous recevons ces paroles de grâce sur nos vies, cette promesse que Dieu sera toujours là. Et je vous invite à vous lever pour la recevoir dans vos cœurs. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Confessons notre foi avec les premiers témoins de Jésus-Christ, avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avec André, nous avons trouvé le Messie, avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de l'enfant malade, je crois, Seigneur, Viens au secours de mon manque de foi. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, dans la série de prédications sur le libéralisme et la foi faisant son autocritique, j'ai choisi de parler pour vous des Écritures et de leur statut. Et pour ça, j'ai choisi un passage biblique dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Après cette parabole, je vous invite à chanter le psaume 25, les strophes 1, 2 et 3 dans le psautier. Thank you. Je vous invite à la prière et nous prierons avec Nicolas Malebranche. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison, aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions ou élever votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille avec son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels. Accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux indiciblement être heureux. Donnez-moi donc, dans l'oraison, l'avant-goût des vrais biens, afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens, afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. La façon de comprendre l'autorité des Écritures est l'élément qui distingue le mieux l'identité d'une tradition de foi par rapport à une autre. Les religions révélées se définissent par le crédit qu'elles prêtent aux textes ou témoignages qui les fondent. Mais dire que ces textes ou ces témoignages fondent la religion ne va pas de soi. Car c'est de façon souvent arbitraire que l'on choisit ce qui fera le socle de la tradition religieuse que l'on construit. Et c'est aussi de façon très circonstancielle que telle ou telle tradition écrite ou orale a autorité sur une communauté. Un texte ou un témoignage est une production humaine qui voit le jour dans un espace et un temps particulier, selon des modes de transmission qui ne sont pas si facilement transposables ou compréhensibles dans un autre contexte. De plus, ce que nous connaissons transporte tout ce à quoi nous n'avons pas accès. Et tout ce qui, pourtant, a influencé ce qui nous a été transmis. Les textes sont pleins d'une épaisseur que parfois nous avons du mal à comprendre d'emblée. C'est pour cela que la Bible n'est parole de Dieu que pour le lecteur qui veut lui prêter cette autorité. Elle ne l'est pas en soi. Mais elle est avant tout un document qui nous dit quelque chose de très partiel et de très partial sur la foi de celles et ceux qui nous ont précédés. Il n'y a donc pas de livre sacré à proprement parler. Il n'y a que des lectures sacrées. Non pas que ce qui est lu le soit réellement, vous le comprenez bien, mais la foi de chacun doit être toujours considérée comme une terre sacrée où personne ne devrait pouvoir venir s'y ériger en inquisiteur pour condamner ce que chacun reçoit dans la foi. On ne peut donc pas imposer sa foi à personne, ni sa lecture des textes. Mais personne ne peut prétendre savoir comment l'autre doit croire. Cette pensée libérale du religieux implique un respect profond pour la part incommunicable de la foi de chacun et une exigence intellectuelle incontournable pour ce qui peut être partagé et critiqué comme un document. L'honnêteté du sola scriptura suppose donc le respect de la lecture intime et la confrontation à sa lecture à l'universel, c'est-à-dire toujours essayer de trouver le mode rationnel qui va nous permettre de partager avec les autres ce qui, pour le coup, peut l'être. Alors mettons-nous à la tâche avec cette parabole. Que penser de l'histoire du riche et de Lazare? Comment la comprendre et à quel degré la lire? Parce que vous avouerez qu'elle pose quand même certains problèmes. Au premier degré, le royaume des cieux est décrit ici comme une réalité. On pourrait le lire tout à fait au pied de la lettre et se dire, voilà, on sait ce que c'est que le royaume des cieux grâce à ce texte. On connaît alors ce qui arrive aux riches qui ne partagent pas leurs biens durant leur vie avec les plus pauvres. Il raconte aussi, ce texte, que les pauvres, on sait ce qui leur arrivera après la mort. Comme ils ont été très malheureux durant leur vie, ils seront consolés après leur mort. En conséquence, on pourrait lire cette histoire comme l'explication du jugement dernier. Il s'agirait ici d'une théologie de la rétribution dont personne ne pourrait témoigner puisque personne n'est jamais revenu du séjour des morts pour en dire la réalité jusqu'à ce jour. Cette lecture pose d'énormes problèmes, évidemment. Non pas du point de vue humain, mais du point de vue divin. Si toutefois on puisse se mettre à la place de Dieu, au moins fictivement. Car enfin, avec une telle théologie, Dieu s'avoue vaincu et incapable de changer quoi que ce soit dans la vie des hommes. Les hommes vivent leur vie et la sanction tombe après leur mort, et c'est juste là qu'il peut intervenir en séparant les uns des autres. Dans cette perspective, il y aura toujours des riches indifférents, mais heureux, et des pauvres, eux, très malheureux. Au second degré de lecture, on pourrait lire cette histoire comme une blague. Et oui, le riche qui se croyait très à l'abri du besoin se retrouve en position de demander aux pauvres de l'aide. Ironie du sort. Extraordinaire humour qui renverse la situation pour mieux tourner en ridicule celui qui se croyait puissant et hors de toute atteinte. En revanche, on a ici quelque chose d'un peu méchant parce qu'on a un côté revanchard du pauvre sur le riche, même s'il ne dit pas grand-chose, lui, mais on sent quand même une certaine revanche du pauvre sur le riche. L'ironie d'Abraham aussi est là qui prévient qu'aucune solution n'est possible pour se sortir de ce mauvais pas et On voit aussi le refus de lever le petit doigt, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'est pas question que Lazare aille tremper son doigt pour rafraîchir le riche, pour aider le riche à revenir. Lui ou ses frères, ils ne reviendront pas de leur faute de sitôt, puisque manifestement tout est déjà bouclé et le riche s'est fait avoir en quelque sorte. Il n'était pas prévenu et voilà la récompense qu'il a au ciel. Avec une telle lecture, d'accord, on rit bien, parce que c'est vrai que les personnages sont assez énormes, mais pas très longtemps, car c'est la fatalité qui l'emporte. Et le salut est absolument fermé aux pécheurs. Et pour nous, c'est grave. Or, qui pourra jamais prétendre qu'il ne lui est pas arrivé de pécher ? Alors là, avec une lecture comme ça, nous sommes tous très mal partis. Au troisième degré, Jésus raconte une parabole pour mettre en garde les riches contre leur indifférence à l'égard des pauvres et contre les conséquences de leur attitude. C'est donc une leçon. Mais là encore, il n'y a aucune preuve à donner de la vie éternelle après la mort. L'histoire reste une menace en l'air et n'est pas de grande efficacité sur les agissements du riche, qui préférerait toujours profiter tant qu'il en est encore temps, plutôt que de se priver sans garantie de l'existence du royaume des cieux après la mort. Pas très efficace tout ça. Il semble bien que ce ne soit pas au bout du compte dans ce texte la morale qui soit le sujet de cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Et oui, il y a là autre chose que la distinction entre le bien et le mal, même si c'est très présent dans tout le texte. Retirons une à une les briques qui la composent, cette parabole. Le riche est caricatural, vous l'avez vu, et ne parle pas à grand monde autour de Jésus. J'imagine que très peu de gens autour de Jésus qui sont en train d'écouter cette parabole font la fête tous les jours et sont ainsi d'une telle arrogance. Faire la fête ainsi, c'est bien, mais est-ce si important et est-ce que c'est cela qui donne vraiment le bonheur sur la terre ? Lazare, lui, est au comble de la pauvreté et sa vie est tellement douloureuse que la consolation d'être repris ainsi dans la tendresse d'Abraham n'est pas vraiment suffisante pour rassurer quelque pauvre que ce soit. Il a quand même toute sa vie à vivre ainsi. Et Abraham, que fait-il là, lui ? Ne s'attendrait-on pas à trouver Dieu plutôt qu'Abraham dans le royaume des cieux ? Cette parabole est en fait une expérience de pensée, comme on le fait en science pour parvenir à trouver un résultat. On est obligé de se mettre dans des conditions complètement artificielles qui n'existent pas dans la réalité. En laboratoire, on fait ça tout le temps, avec des objets qui, dans la réalité, ne seront jamais croisés par qui que ce soit. Et grâce à cette situation complètement artificielle et construite pour arriver à prouver quelque chose de vrai, on arrive à faire du vrai avec quelque chose qui n'existe pas dans la réalité et qui pourtant permet de comprendre quelque chose de très présent dans notre vie. En science, on fait ça, mais aussi dans les paraboles. Jésus raconte une histoire dans laquelle les liens logiques entre les objets qui semblent bien identifiables, un pauvre, un riche, Abraham, tout ça, les gens qui l'écoutent connaissent ou ont l'impression de connaître parce qu'il leur donne comme des objets à connaître. Tout ça permet de comprendre une vérité invisible et impossible à exprimer directement dans la vie réelle. Le riche et le pauvre sont une sorte de comme des cobayes de laboratoire théologique, en quelque sorte. Dans la réalité, elles n'existent pas puisque personne ne les a jamais croisées après leur mort, car n'oublions pas que ce sont des gens qui sont au royaume des cieux. Donc on est en train de parler de deux morts qui discutent. Mais dans la fiction de la parabole, tout ça est extrêmement convaincant pour conduire à une prise de conscience, voire à une conversion chez les auditeurs de Jésus. Donc avec quelque chose de pas du tout réaliste, on arrive à faire quelque chose d'extrêmement réaliste et d'y trouver de la vérité. L'après-mort est inconnaissable, sauf par une expérience de pensée de ce type-là, qui puisse nous projeter dans la fiction. Il faut imaginer qu'on puisse passer de l'autre côté de la mort, ce qui est loin d'être sûr. Il faut imaginer donc qu'on puisse se voir soi-même après, comme s'il y avait un après en plus. Et tout ça pour pouvoir comprendre la réalité de notre propre vie. Mais que veut faire comprendre Jésus avec ce détour par cette histoire imaginaire? Jésus tisse tout un réseau de références à sa culture religieuse qui ont force de symbole et il s'appuie sur les Écritures pour le faire. On trouve la figure du riche souvent raillée et contestée dans d'autres paraboles. C'est donc un personnage récurrent qui souvent accroche bien l'auditeur, mais aussi Lazare, qui porte dans son nom même la question éthique de la pauvreté et de l'aide, puisque Lazare veut dire « Dieu aide ». Si Dieu aide, à plus forte raison, les humains sont invités à aider. Dans ce réseau de références symboliques, on trouve aussi les chiens, à la fois figure de l'impur, parfois même figure du païen, de l'impie, qui pourrait rappeler chacun à son humanité et à sa foi. Parce que si les chiens viennent lécher les ulcères de Lazare, à plus forte raison, les congénères du pauvre qui est là devraient venir l'aider eux aussi. Donc les chiens servent bien dans cette histoire à montrer qu'il faudrait bien que les hommes se conduisent au moins comme des chiens. On trouve aussi Abraham, qui ici évoque la foi et une sorte de bonne façon de croire. Mais il évoque aussi tous les textes apocalyptiques avec lesquels Abraham, le croyant, est celui qui regarde en surplomb la destinée des humains et l'histoire du salut. Il y a énormément de littérature avec Abraham qui monte au ciel et qui parle aux croyants de là où il est. Et puis il y a aussi le séjour des morts, le Shéol, espace dans lequel la littérature de sagesse place les impies qui, comme de l'étoupe, se consument à la flamme du jugement, dit un texte. Tout ce réseau de symboles inscrit cette fable dans la tradition eschatologique de la fin des temps ou de la connaissance de ce qui se passera après, mais permet à celui qui raconte de placer en face de toute cette imagerie la foi en Moïse et dans les prophètes comme fondement scripturaire et éthique. D'un côté, on a toutes ces images et de l'autre, on a Moïse et les prophètes en qui il faut croire. Ce que veut prouver cette expérience de pensée, c'est que la loi de Moïse et les enseignements des livres prophétiques ne sont pas là pour imaginer l'après-mort et parler de quelque chose qui existe quelque part dans le ciel avec Abraham, mais pour construire autrement la vie avant que la mort ne nous emporte. C'est-à-dire que cette histoire qui nous parle beaucoup de mort nous parle en fait essentiellement de notre vie. Ainsi, l'expérience nous projette-t-elle après la mort pour nous faire mieux connaître ce qu'est la vie selon la loi et selon les prophètes, selon la foi qu'Abraham nous a montrée dans Moïse et dans les prophètes. C'est un véritable geste de retournement qui a lieu ici. En imaginant la fiction d'un dessous des cartes, on comprend l'enjeu véritable de la vie même. La mort projetée ainsi donne la mesure de la vie. La théologie de la rétribution est ainsi largement dépassée. Il ne s'agit plus de savoir à qui on distribuera les bons points. Il ne s'agit plus là de cette question, mais il s'agit de la compréhension des Écritures et de leur usage éthique. Que faisons-nous de Moïse et des prophètes ? Et la parabole permet de critiquer une lecture moralisatrice qui rate à coup sûr le but même d'une œuvre de langage. Moïse et les prophètes sont ici symboles de libération de cette morale qui fait un peu trop vite le tri entre les humains. Moïse et les prophètes montrent un chemin vécu dans la foi par-delà les embûches qui mettent à mal la morale normalement admise. Ils sont l'exemple même de ceux qui ont eu à dépasser le mal qu'ils ont fait eux-mêmes. Moïse n'est-il pas un meurtrier lui-même ? Son histoire commence ainsi. Pourtant, la foi transformera cette faute en point de départ d'une nouvelle vie. Moïse et les prophètes nous invitent à passer de la servitude de la loi imposée à la foi vécue, dans la capacité de la loi à nous libérer. Ils invitent à la conversion d'une loi qui limite à une loi qui donne toute son ampleur à la vie, parce que à l'horizon, il y a notre mort. Alors que ferons-nous ? Il s'agit d'incarner la loi et non plus de l'appliquer par crainte. Alors quand le riche demande qu'on prévienne ses frères, Abraham, l'archétype de l'homme de foi, répond que cela ne servira à rien, car ce qu'il faudrait aux frères, c'est une véritable conversion qui les ferait passer de la crainte de la mort au véritable don de la vie. Incarner la loi et les prophètes, ce n'est pas aider le pauvre par peur de la sanction divine, mais l'aimer comme soi-même et lui donner une part de sa vie, non pas pour soi et pour son propre salut, mais pour lui. Alors, comme si ce renversement de la mort vers la vie ne suffisait pas à comprendre le geste de conversion qu'elle préconise, la parabole se termine par une mise en abîme de cette résurrection déjà promise chez Moïse et les prophètes, de cette vie dans la foi qui ouvre sur l'éternité et l'infini de Dieu. Et c'est le riche qui présente maintenant une expérience de pensée au sein même de l'expérience de pensée dont il est un acteur. Il suppose que si quelqu'un revenait de la mort pour parler à ses frères, alors il comprendrait et changerait radicalement. En d'autres termes, il se convertirait à une vie de foi. Lui aussi projette, mais ailleurs. La réponse est sans appel de la part d'Abraham. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Dans cette parabole, Jésus semble parler de l'échec de l'accueil de sa résurrection. Nous avons là une parole à rebours, après la mort et la résurrection de Jésus, dans un texte écrit pour raconter ce fait, pour raconter cette parabole extraordinaire. Lui qui raconte une parabole pour faire comprendre la véritable conversion à laquelle nous appellent les Écritures, renvoie le lecteur à son incrédulité. La résurrection se critique alors elle-même dans ce texte. Même si quelqu'un revenait d'entre les morts, nous n'y croirions pas. Elle est la parabole ultime, cette résurrection, la plus difficile à croire et à comprendre. Le Messie mort et ressuscité, cet homme qui vivait selon la foi en Moïse et les prophètes, cet homme qui incarnait le sens de la loi pour en faire de la vie, n'a pas été reconnu. Et comme dans les pages de Dostoïevski qui, dans les Frères Karamazov, crée une rencontre fictive, elle aussi, entre Jésus et le grand inquisiteur, il y a fort à parier que si Jésus revenait, on le tuerait encore. Nous avons lu ensemble une parabole attribuée à Jésus, le porteur de vie. Les Écritures, nous l'avons vu, ne craignent pas de se critiquer elles-mêmes, de se mettre en question et de se travailler elles-mêmes par des expériences de pensée. Les symboles y tissent des relations entre le lecteur et ce qui du divin nous rejoint, sans jamais fermer les perspectives infinies que nous offrent les textes. pour que jamais le sola scriptura des réformateurs ne devienne lettre morte. Faisons des textes de foi des lectures libres, éclairées, pour devenir nous-mêmes des écritures vivantes dans ce monde. Amen. Je vous invite en cette veille de 15 août, dans la communion avec nos frères et sœurs catholiques qui vont avoir une fête importante pour eux, à chanter un cantique qui nous rappelle à l'Écriture, puisqu'il s'agit du cantique de Marie dans l'Évangile de Luc, qui est mis en musique à la page 350 de vos psautiers. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. C'est l'air du psaume 8, en fait, donc vous connaissez très bien. Voilà, un cantique qui avait quand même un lien avec notre texte biblique du jour. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et c'est Denis qui va partager avec nous les annonces et je vais descendre avec lui pour les partager.
Chers frères et sœurs, qui êtes là et qui êtes aussi par l'intermédiaire d'Internet à regarder le culte, je pense que nous pouvons remercier Béatrice pour sa prédication sur la foi. C'était la quatrième prédication sur le cycle « Le libéralisme et la foi faisant son autocritique ». Et j'ai notamment retenu, entre autres choses, qu'il n'y avait pas de texte sacré, mais que la lecture était sacrée. Merci beaucoup. Elle peut l'être, en tout cas. Oui. Pour les annonces, eh bien, cette semaine, comme chaque jeudi à 12h30, il y aura la pause spirituelle, à 12h30 à 13h30 ici même au Temple, avec la pasteure Agnès Adeline Schaeffer, qui sera rentrée de vacances. Dimanche prochain, le culte aura lieu, comme à chaque fois, à 10h30, et il sera suivi d'un pot. C'est un moment très sympathique où chacun peut faire connaissance avec les personnes qu'on croise, sinon sans davantage d'attention, et ça permet donc de se retrouver. Ce sera au jardin. Le 28 août, ce sera la commémoration de la Saint-Barthélemy. Il y aura aussi à 12h, une conférence de 12h à 13h de Olivier Millet sur la Saint-Barthélemy. Et enfin, le dimanche 2 septembre, le culte aura lieu ici, mais aussi il y aura un culte au désert, le 4 septembre, le dimanche 4 septembre. À cette occasion-là, du culte du désert, Béatrice sera aussi présente dans les Cévennes. Donc si vous souhaitez vous retrouver avec elle au moment du culte le dimanche matin, vous pouvez vous faire connaître sur l'adresse internet désert2022@oratoiredulouvre.fr. À présent, c'est le moment de l'offrande. Pour vous qui êtes plus loin, vous pouvez aussi irriguer financièrement la vie de l'Église en participant et en cliquant sur le bouton « Don joyeux ». Et pour ceux qui êtes ici avec nous, nous allons passer dans les rangs pour le don joyeux. Merci beaucoup. Et il y a aussi un panier connecté. Merci.
Et je voudrais juste faire un petit aparté pour vous dire qu'il y a ici une magnifique librairie qui vous attend, parce que si vous avez un peu de congé, un peu de temps par rapport à d'habitude, vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'ouvrages qui portent sur la théologie que nous prêchons ici. Et donc vous allez pouvoir continuer votre formation permanente de chrétien dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les livres qui sont ici. Merci.
Et merci aussi à Sacha pour l'orgue. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sacha, pour cette chaconne de Pachelbel. Je vous invite à la prière. Éternel, merci. Merci pour tous ceux que tu nous donnes pour dialoguer, chercher ensemble, critiquer nos propres certitudes, convictions, lectures. Merci pour tous ceux qui se retrouvent ici dans cette église pour parler ensemble de ces textes si lointains et si proches. Merci pour tout ce que nous partageons autour des Écritures de ceux qui ont cru en toi avant nous. Donne-nous toujours la prudence et l'ouverture d'esprit nécessaires pour ne pas nous enfermer dans une seule vision de ces témoignages. Donne-nous le courage d'être nous-mêmes témoins de notre foi en essayant de mettre en forme quelques mots pour la dire. Aide-nous, Seigneur, à être Christophore, porteur de Christ dans ce monde, porteur de cette parabole de la mort et de la résurrection, si difficile à croire, si difficile à vivre. Éternel, nous te remettons tous ceux qui craignent l'après-mort, tous ceux qui ont peur. Nous en faisons partie parfois. Il nous est arrivé de douter qu'il y aurait pour nous une miséricorde, un amour infini. Aide-nous à vivre notre vie, celle que tu nous donnes, ici et maintenant, et à te remettre tout ce qui n'est pas en notre pouvoir. Aide-nous à vivre pour nos contemporains, pour ceux que tu nous donnes à aimer aujourd'hui, et à te laisser tout ce qui nous est inconnu. Éternel, nous te remettons tous les obscurantistes du monde. Permets, Seigneur, qu'enfin la parole et l'intelligence puissent venir au secours de cette violence infinie qui vise à empêcher quiconque de parler, d'écrire, de penser, de créer. Nous te demandons ton soutien pour être de ceux qui aident les créateurs, qui aident les écrivains, qui aident les artistes, tous ceux qui font que ce monde a une portée symbolique dans des œuvres créées par des hommes. Nous te demandons, Seigneur, le courage de nous ériger contre la violence. Donne-nous, Seigneur, d'être porteurs d'une éducation, d'une connaissance qui élève et qui jamais n'a service. Ensemble, nous nous levons pour te dire, Seigneur, comme à un Père, en qui nous avons confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce, celui qui a été révélé par les témoignages de foi, est pour nous toujours bénédiction. Amen.